tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Maïlys Besri, bonjour à tous. L'Italie se souvient aujourd'hui de cette catastrophe qui s'est déroulée il y a un an, l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes qui avait entraîné des voitures et camions sur une chute mortelle de 50 mètres. 43 personnes avaient perdu la vie. Les chefs de file des différents partis politiques se sont rassemblés pour une cérémonie ce matin. La crise s'est donc mise en pause. Nous joindrons notre correspondant Antonino Gallofaro. Facebook l'avait nié dans un premier temps, mais aujourd'hui le réseau social de Mark Zuckerberg le reconnaît. Oui, il a écouté et retranscrit des conversations audio d'usagers sur son application Messenger. Il assure ne plus le faire aujourd'hui et il affirme qu'il avait à l'époque obtenu l'autorisation des usagers. Maxime Fayol nous expliquera les tenants et aboutissants de cette affaire. Le niveau des nappes phréatiques en France est très inférieur à celui d'il y a un an. Les canicules et l'absence de précipitations de l'été font bien sûr partie des causes de ce phénomène. Nous ferons le point dans cette édition avec Fiona Mogadam. Au sommaire de la grande table d'été, Maïlys Besri.
On va parler de super-héros à l'occasion de la 9e Biennale du 9e art et le musée Thomas-Henri de Cherbourg qui consacre une exposition à Jack Kirby. Et nous ferons le portrait du peintre Pierre Buraglio.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'était il y a exactement un an, à 11h36, le pont Morandi de Gênes en Italie s'écroulait, provoquant la mort de 43 personnes. L'Italie se souvient donc aujourd'hui de ce drame à l'occasion du premier anniversaire. Une cérémonie s'est tenue il y a une heure, pratiquement en dessous du lieu où le pont s'est écroulé. Les commémorations ont compris des discours du maire, du chef du gouvernement et de représentants de familles des victimes. Une messe a également été célébrée par l'archevêque de Gênes. Bonjour Antonino Gallofaro.
Bonjour.
Vous avez assisté à cette cérémonie.
Oui, et la commémoration s'est achevée avec une minute de silence à 11h36. Seules les cloches et les sirènes des navires du port non loin ont retenti avec un lâcher de ballon au-dessus du site où se trouvait le pont Morandi pour se rappeler des 43 victimes. Juste avant, cette messe commémorative célébrée dans un hangar à l'ombre d'une pile en construction, la première qui soutiendra le nouveau pont imaginé par l'architecte Renzo Piano. Mais ce sont des commémorations particulières. Les Génois ont pu y assister, mais à l'écart. Une centaine de mètres les séparaient de l'hangar où se trouvaient les autorités ainsi que les familles des victimes. Alors cette cérémonie l'ont suivie sur un écran géant où était diffusée Rai Uno, la première chaîne de la télévision publique. Réitération donc de certains Génois lors de commémorations non privées. En plus de polémiques, certaines familles de victimes ont préféré boycotter la cérémonie de peur d'une récupération politique de leur drame. C'est d'autant plus vrai qu'une crise politique est ouverte depuis la semaine dernière, provoquée par le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Le chef de la Ligue a assisté à la messe, non loin de son ancien partenaire de coalition, Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles. Présent aussi le Premier ministre en fin de course, Giuseppe Conte, et bien sûr le président de la République, Sergio Mattarella, qui s'est assuré et a réussi que ce matin au moins la crise politique reste entre parenthèses.
Merci à vous Antonino Gallofaro. Cet épisode dramatique italien a bien sûr marqué les esprits au point de déclencher une prise de conscience sur l'entretien des ponts, non seulement en Italie mais aussi chez ses voisins en général et en France en particulier. Une mission d'information sénatoriale sur la sécurité des ponts tricolores a été initiée dès le lendemain de cette tragédie, il y a un an donc. Elle a rendu ses conclusions au début de cet été. Elle préconise en premier lieu un inventaire détaillé des ouvrages d'art que compte le pays. Bonjour Hugo Charpentier.
Bonjour Hélène.
Selon les sénateurs, il y aurait entre 200 000 et 250 000 ponts sur le territoire français. 10% seraient dans un mauvais état structurel.
Oui, mais avant de pouvoir réparer et entretenir nos ponts, il faudrait en effet d'abord savoir combien il y en a avec certitude, car vous venez de le dire, Ilan, ça reste la grande inconnue. Christian Tridon est le président du syndicat des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation de structures. Et selon lui, ce manque de précision est lié au désengagement de l'État sur les routes nationales. Départements et communes sont devenus de fait les gestionnaires de nombreux ouvrages d'art.
Résultat, prenez un maire d'une petite commune de 5 000, 10 000 habitants, eh bien lui, il n'est plus du tout assisté. Souvent, quand on discute avec eux, il ne sait même pas si le pont qu'il est en dessous de la mairie, là, il est bien à lui. C'est pas possible.
La mission sénatoriale préconise du coup la mise en place d'un carnet de santé pour chaque ouvrage, sorte de fiche technique qui permet de répertorier chaque pont. Autre mesure, un investissement d'1,3 milliard d'euros d'ici 2030, une aide pour des collectivités locales souvent démunies. C'est le cas par exemple en Seine-et-Marne, à Guérard, 2500 habitants et le pont de la commune fermé à la circulation depuis 2014. Daniel Nalis, le maire de Guérard.
Le problème, c'est que la ferraille est complètement érodée et que les piliers sont défectueux. Voilà. Et donc, il y avait des poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui sont passés, qui n'ont rien arrangé. Donc, ça devenait dangereux.
Mais les réparations coûtent cher, 1 million d'euros, impossible à supporter pour les caisses de la commune.
C'est sûr que par rapport à un budget de fonctionnement de l'ordre de 2 millions d'euros, une dépense de 1 million, c'est clair que c'est impossible. Donc nous avons sollicité tous les élus au-dessus de la région et de l'État. Il n'y a pas eu de nouveau pour nous, mais ça ne dépend pas de nous.
Voilà, vous l'entendez, ce maire ne cache pas son dépit, mais il mise beaucoup sur cette enveloppe d'1,3 milliard d'euros. Une mesure qui sera d'ailleurs débattue au Sénat, ce sera au début du mois d'octobre.
Merci à vous Hugo Charpentier. Au Portugal, le conflit se tend entre le gouvernement et les chauffeurs de camions-citernes de carburant qui sont en grève actuellement pour demander des hausses de salaire. Le syndicat des chauffeurs appelle aujourd'hui ses membres à boycotter la réquisition décrétée pour faire respecter un service minimum de ravitaillement. Dire à ces gens d'aller travailler sous la menace d'être arrêtés, c'est mettre le pays en danger. Ce ne sont pas des criminels, ce sont les mots du porte-parole du syndicat Pedro Pardal Henriquez. Il appelle les camionneurs à rejoindre un piquet de grève installé aux abords d'un important dépôt de carburant situé à proximité de Lisbonne. Hier soir, le gouvernement portugais avait annoncé que des procédures avaient été ouvertes à l'encontre de 14 chauffeurs qui n'avaient pas respecté cette réquisition décrétée lundi à l'issue de la première journée du mouvement de grève. Voilà qui ne va pas rassurer tous ceux qui s'inquiètent de l'utilisation de leurs données personnelles que font certains sites internet. Facebook reconnaît avoir écouté des conversations audio de certains usagers sur son application Messenger et les avoir même retranscrites. Cet effet assure le réseau social avec l'autorisation de ses usagers. Pourtant, Facebook avait longtemps nié agir de la sorte. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Quel but précis recherchait l'entreprise de Mark Zuckerberg en faisant cela?
Pour Facebook, ces captations de conversations sont utilisées pour perfectionner les assistants vocaux. Vous savez, ces enceintes à qui vous demandez l'heure, la météo et les informations. Eh bien, pour s'adapter à toutes les voix, à tous les accents, il faut leur faire emmagasiner un maximum d'informations afin de les rendre les plus perfectionnés possible. Mais le problème, c'est que fait Facebook avec ces conversations? Est-ce qu'il les capte uniquement pour les décoder? Ou est-ce qu'il les analyse afin de mieux cibler la publicité, par exemple? Sur ce point, le sénateur américain Gary Peters a posé la question au fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, devant le Congrès au mois d'avril 2018.
Pour que tout soit clair, car j'entends cela très souvent, y compris parmi mes collaborateurs, oui ou non, Facebook utilise-t-il les micros des téléphones pour récupérer des informations personnelles sur ses utilisateurs?
Non. Et permettez-moi d'être clair, vous parlez d'une théorie du complot dépassée selon laquelle on utiliserait les micros des téléphones pour mieux cibler les publicités. On ne fait pas ça.
Autre problème, c'est que tout se fait à l'insu des utilisateurs, même si Facebook explique qu'il avait l'autorisation de le faire. On entre dans le domaine des petites lignes, des conditions générales d'utilisation qui changent régulièrement et que vous acceptez sans lire. Aujourd'hui, la pratique a pris fin selon l'entreprise, mais elle ajoute encore de la défiance envers un opérateur tant décrié et pourtant solide leader sur son marché.
Maxime Fayolle. En Russie, un an de prison ferme a été requis aujourd'hui contre le français Gurvan Legal, accusé de corruption. Originaire du Havre, il est placé en détention provisoire depuis fin mars. Ce professeur de français avait été interpellé car il ne disposait pas d'un enregistrement administratif en règle pour pouvoir enseigner. Les agents de police russes affirment qu'il leur a proposé un pot de vin de 15 000 roubles, ce qu'il nie de son côté catégoriquement. Environ 150 personnes se sont réunies à Rennes ce matin en soutien à Vincenzo Vecchi. Ce militant anticapitaliste italien de 46 ans a été interpellé la semaine dernière en France. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, il avait été condamné à 12 ans et 6 mois de prison en Italie, c'était en 2012, pour dévastation et saccage contre des biens lors du sommet du G8 à Gênes en 2001 et pour avoir aussi participé à une manifestation antifasciste émaillée de violence à Milan en 2006. Il doit comparaître aujourd'hui devant la justice française, qui pourrait ensuite décider de le remettre aux autorités italiennes. En France, les niveaux des nappes phréatiques au 1er août sont globalement très inférieurs à ceux de l'an dernier au même moment. C'est ce qu'indique le Bureau de recherche géologique et minière dans son bulletin mensuel. À quelques exceptions près, la plupart des nappes, peut-on lire, présentent des niveaux peu satisfaisants, bas à très bas. Bonjour Fiona Mogadam.
Bonjour Hélène.
Les canicules et l'absence de précipitations de l'été font partie des causes du phénomène.
Et on cause surtout le manque de pluie durant l'automne et l'hiver dernier, car c'est réellement à cette période que les nappes se rechargent et ce qui inquiète, c'est qu'elles ne devraient pas se remplir d'ici la fin de l'été, car même s'il pleut, la végétation a elle aussi besoin d'eau et absorbe généralement ces pluies d'été. Les orages violents, eux, ne permettent pas à l'eau de s'infiltrer. La situation est particulièrement préoccupante pour l'Alsace, la Bourgogne, l'Auvergne, Rhône-Alpes, le Limousin ou encore le Berry. Elle pourrait donc encore s'aggraver dans les prochains mois. Les nappes risquent de continuer de se vider jusqu'à l'automne prochain. Il n'y a qu'encore sous les niveaux sont plutôt bons car les précipitations de mai dernier ont permis une recharge jugée exceptionnelle. La conséquence de tout cela, dans 83 départements, des mesures de restriction d'eau s'appliquent. Dans certaines zones, essentiellement dans le centre et l'ouest de la France, les prélèvements d'eau, y compris pour l'agriculture, sont tout simplement interdits, sauf pour les usages prioritaires. Une situation qu'on a déjà connue en 2017 et en 2005, où les niveaux étaient encore plus bas et qui pourrait se reproduire de plus en plus à l'avenir en raison du manque de pluie et de la multiplication des orages violents.
Merci à vous Fiona Mogadam. Alerte rouge aux incendies en cette veille du 15 août. Les pompiers mettent en garde. Le risque de départ de feu est encore très élevé, notamment dans le sud, le long de la Méditerranée, avec des vents forts qui risquent d'attiser les flammes. Mais cet été, chaleur et sécheresse font que d'autres régions sont aussi touchées par les incendies. Bonjour Lisa Guyenne.
Bonjour.
Des régions qui ne sont pas forcément habituées justement à de tels phénomènes.
Oui, c'est le cas. Par exemple, en Indre-et-Loire, dans le centre, on y trouve le vignoble de Chinon notamment, et surtout beaucoup de cultures agricoles. C'est justement cela qui pose problème, selon le capitaine David Penverne du groupement opérationnel des pompiers d'Indre-et-Loire.
Cette année, on a remarqué une recrudescence notamment des feux de culture. C'est accentué par la sécheresse et en général, c'est initié par les engins des agriculteurs, des exploitants agricoles qui créent une étincelle et c'est souvent l'origine des départs de feu.
Des interventions plus nombreuses, en particulier entre midi et 18h. Et avec les fortes chaleurs, les organismes des pompiers sont mis à rude épreuve.
On a une fatigue du personnel qui s'instaure puisqu'ils sont très sollicités. On a quand même des températures assez élevées. Donc comme ça reste des interventions assez physiques, on arrive vite à avoir des pompiers qui peuvent avoir des coups de chaud sur intervention. Donc c'est éprouvant pour les personnels.
Et dans ce département dépourvu de Canadair, les pompiers s'organisent en anticipant surtout. Ils délocalisent des unités sur les secteurs à risque avant que les incendies se déclarent. Mais davantage de prévention serait aussi utile selon David Penverne.
On n'est pas forcément familiarisé avec la thématique justement des feux importants sur le département. Donc je pense qu'une bonne politique de prévention aurait un intérêt certain. Par exemple, vous êtes sur la route et quelqu'un jette un mégot. En période d'intense sécheresse, c'est vraiment problématique.
Les pompiers espèrent surtout un retour à la normale côté météo avec davantage de pluie. En Indre-et-Loire, plusieurs secteurs sont toujours en niveau de crise à cause de la sécheresse.
Merci à vous Lisa Guyenne. Once upon a time in Hollywood. Ou en français, Il était une fois à Hollywood. C'est le titre du dernier film de Quentin Tarantino qui sort aujourd'hui sur nos écrans. Le film interprété notamment par Brad Pitt et Leonardo DiCaprio nous emmène dans le Hollywood de 1969. Il évoque notamment l'assassinat de l'actrice Sharon Tate par le meurtrier Charles Manson. Pour préparer son film, Tarantino a notamment contacté Scott Michaels qui tient un musée consacré justement aux décès célèbres qui ont marqué l'histoire hollywoodienne. Loïc Piala l'a rencontré.
Son petit musée des chairs disparues se trouve juste en face du Forever Cemetery, le cimetière le plus célèbre d'Hollywood.
Tous les objets ici sont liés à de terribles événements.
Scott Michaels s'attarde sur ses articles les plus rares, la voiture dans laquelle est morte l'actrice Jane Mansfield ou une mèche de cheveux de Charles Manson. Il connaît l'affaire Sharon Tate par cœur, alors Quentin Tarantino l'a contacté.
Il voulait des détails super précis. Après avoir passé un peu de temps avec lui, je me suis rendu compte que c'était autant un geek que moi.
Le réalisateur a par exemple découvert qu'une chanson du groupe Paul Revere and the Raiders avait été composée sur le piano situé à quelques mètres de l'endroit où Sharon Tate a été assassinée. Et ce morceau, Good Thing, se retrouve sur la bande originale de Il était une fois Hollywood. Pour Scott, assister au tournage a ressemblé à un voyage dans le temps, direction le Hollywood de 1969.
Tarantino a immortalisé cette affaire. Il y a déjà eu des films et des documentaires, mais Tarantino, c'est comme Hitchcock. Dans 100 ans, on étudiera encore les films de Hitchcock. Pareil avec Tarantino.
Tarantino n'a pas hésité non plus à tourner sur Cielo Drive, la rue où vivait l'actrice.
Quand on voit une voiture prendre un virage serré en bas d'une petite rue, c'est sur Cielo Drive. Et quand les tueurs remontent la rue avec leurs armes, c'est aussi là-bas.
Mais pas la peine de chercher sur Cielo Drive la maison de Leonardo DiCaprio dans le film. Elle n'existe pas, il n'y en avait que trois dans la rue à l'époque. Et celle de Sharon Tate, en haut d'une colline, a été détruite en 1993.
Voilà, Once Upon a Time in Hollywood, 9e long métrage de Tarantino et peut-être son avant-dernier film selon ses mots à lui. Toujours du beau temps sur une grande partie du pays aujourd'hui et toujours des risques d'averses sur un quart nord-ouest qui va des Pays de la Loire jusqu'au Hauts-de-France. Température annoncée pour cet après-midi, elle part de 17 degrés dans le Calvados et elle monte jusqu'à 30 dans les Pyrénées-Orientales. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue. Elle a été réalisée à la technique par Inès De Bruyne. 12h passées de 45 minutes sur France Culture. Vous retrouvez tout de suite Maïlys Bessery pour la grande table d'été.